pour l'œuvre que tu veux faire dans ce sens encore, dans chaque cœur ce soir. Nous te bénissons. Amen, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Voilà, eh bien, on va en effet ouvrir la parole du Seigneur dans l'évangile de Jean, chapitre 6. Et au verset 26, où nous lirons une expression qu'on trouve 24 fois dans l'évangile de Jean. Et c'est une expression qui a une importance considérable, en tout cas Jésus l'utilise pour souligner les vérités les plus importantes de l'évangile qu'il a voulu nous communiquer. On ne va pas voir les 24 ce soir, mais malgré tout on va voir celle qui, je crois, concerne le plus notre sujet d'aujourd'hui. Alors nous lisons dans le chapitre 6, au verset 26, pardon. Il faudrait lire aussi le verset 24, vous le direz. Donc, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Amen. Voilà. Cette expression « en vérité, je vous le dis, dit le Seigneur », bien, c'est ce qu'il utilise, nous l'avons dit, pour souligner les points les plus importants de son enseignement. Et en fait, c'est la traduction de « amen, amen ». Amen, amen, en vérité ». Et ce que nous voudrions voir, donc ce soir, le premier point que nous voudrions voir, le point dont nous parle notre verset, eh bien, c'est l'état de l'homme sans Dieu. C'est l'état de l'homme sans Christ, pour commencer. Que dit Jésus dans ce passage ? Donc, lorsque nous lisons ce texte, eh bien, nous voyons que ces gens-là étaient venus. Attendez, qu'est-ce que c'était ? Chapitre 6, verset 26, pardon. N'importe quoi, Daniel, qu'est-ce que je fais ? Voilà. Non, Jésus leur répond, vous le dit, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé les pains et que vous avez... Donc, que dit Jésus dans ce passage ? Bien, le peuple qui était venu vers lui, il ne comprenait pas comment Jésus avait pu arriver à cet endroit. Alors, il se doutait qu'il y avait certainement... Du verset 19 au verset 21, nous voyons que Jésus va prendre un raccourci en marchant sur les eaux du lac, donc pour aller de l'autre côté du lac de Génézareth, donc de la mer de Galilée. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait tout le tour. Ils ont fait tout le chemin à pied, enfin, le demi-tour plutôt. Et pourquoi est-ce qu'ils ont fait tout ce chemin à pied dans ces régions qui n'étaient pas forcément évidentes, qui pouvaient être en partie même désertiques ? Est-ce que c'était pour écouter la parole de Dieu ? Non, Jésus le dit, c'est parce qu'il avait fait pour eux une multiplication des pains et des poissons. Nous savons que c'est au verset 5 au verset 14 que cela nous est dit. Et ils espéraient que ça allait recommencer. Ils espéraient que ça allait recommencer. Et dans un autre passage, il est écrit qu'avant la multiplication des pains, ils avaient voulu l'enlever, après la multiplication des pains, pardon, ils avaient voulu l'enlever pour le faire roi. Voilà, c'est ça qu'ils voulaient. Est-ce que c'était pour la gloire de Dieu ? Non, c'était pour leur intérêt personnel. Pensez donc, voilà, à ce moment-là, vous savez, aujourd'hui, on ne se rend pas compte qu'on vit dans un monde où on a quand même, surtout en Occident, une relative facilité à avoir de la nourriture. On n'a pas trop de mal à avoir de la nourriture. Vous avez bien des pays dans le monde, ce n'est pas comme ça. Et à cette époque-là, ce n'était pas comme ça non plus. Donc quelqu'un qui allait être pour eux une source de nourriture, ah ben c'était un trésor. C'était vraiment quelque chose d'inespéré pour la plupart des gens. Donc ce qu'ils voyaient, c'était surtout ça. Ils voulaient bien venir écouter les paroles de grâce que Jésus prononçait. Mais surtout, ce qui les intéressait le plus, eh bien, c'était de savoir, savoir qu'il n'y aurait plus besoin de travailler, de se donner de la peine. C'est la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Mais il suffirait donc de suivre Jésus, et puis les multiplications des pains et des poissons se feraient, se continueraient. Et vous savez, le problème de beaucoup de gens qui viennent à Christ, même aujourd'hui, eh bien, ils le font principalement et parfois uniquement par profit personnel. Pourquoi ? Bien, ils veulent bien être guéris, ils veulent bien être bénis par Dieu, mais sans s'engager pour le Seigneur. Ils veulent bien recevoir du Seigneur, mais ils ne veulent pas lui donner, ou alors ils veulent bien lui donner un peu quelque chose, mais ils ne veulent pas se donner surtout. Donc, alors, ils vont le suivre tant qu'ils verront leur intérêt, mais quand ils auront l'impression que ce n'est plus le cas, alors, eh bien, ils vont arrêter de le suivre. Et Jésus avait fait un miracle pour eux, ou plus exactement, il avait fait un signe. Parce que c'est là ce qu'on devrait traduire, c'est ainsi qu'on devrait traduire exactement donc, le mot miracle dans ce verset 26. Un signe, c'est quoi? Un signe, c'est quelque chose qui indique une direction. Lorsque vous faites un jeu de piste, on faisait ça, hein, on a fait ça pas mal, dans la forêt, alors vous êtes en train de suivre une trace, et puis vous guettez. Vous suivez un chemin, vous guettez les signes qu'il peut y avoir, de ce que voilà, l'équipe qui est passée avant vous, ou les organisateurs du jeu, ont mis. Alors, ça peut être cette fois une branche qui est cassée, ou alors ça peut être un signe qui est tracé par terre. Et vous guettez ce signe-là pour connaître la bonne direction. Et Jésus, c'est celui qui fait des miracles. Pas juste pour guérir les gens, bien sûr, il a l'objectif aussi de soulager les souffrances du monde. Mais son objectif premier, au travers des miracles qu'il opère, c'est un signe pour leur indiquer la volonté de Dieu. C'est un signe pour les inviter à s'approcher de lui. C'est un signe pour les inviter à écouter sa parole, pour les inviter à se convertir et à changer de vie. Le problème, c'est que eux, eh bien, ils ne pensaient qu'à profiter ou majoritairement à profiter. Comme disait quelqu'un, au lieu de voir dans le pain le signe, ils n'ont vu dans le signe que le pain. Ah, je répète, au lieu de voir dans le pain le signe, ils n'ont vu dans le signe que le pain. Et Jésus agit encore comme ça aujourd'hui, vous savez. Hein. Aujourd'hui, le Seigneur encore répond à bien des prières. Le Seigneur encore aujourd'hui opère des miracles de guérison, de délivrance. Et son objectif, c'est vrai, c'est de guérir et de soulager. Mais avant tout, son objectif, par ce moyen, c'est de pousser ceux qui voient des miracles à écouter la parole du Seigneur, à se soumettre à Dieu, à chercher quelle est sa volonté et son plan pour leur vie, et à le recevoir, bien sûr, comme leur sauveur et surtout comme leur Seigneur. Amen. Alors voilà donc un autre passage encore où il nous est parlé de l'état de l'homme. C'est dans Jean chapitre 8, verset 34, hein, puisque nous sommes en train de parler de l'état de l'homme sans Dieu. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et si on veut vraiment traduire toute la vérité qui est contenue là dans le texte original, c'est quiconque se livre au péché est esclave, il est vraiment esclave tout en se croyant un homme libre. C'est ça que ça veut dire. Hein, voilà. Donc, et pourquoi est-ce que Jésus dit ça? Parce que justement, ceux auxquels il était en train de parler à ce moment-là ne voulaient pas l'accepter. Donc, il disait, mais nous n'avons jamais été esclaves de personne, ce qui historiquement était faux d'ailleurs. Hein. Ce qui historiquement était faux. Donc, il y avait eu déjà la captivité en Égypte, rappelez-vous, pendant 400 ans, hein, de leur peuple. Et puis, il y avait eu différents peuples qui les avaient opprimés à différents moments. Vous n'avez qu'à lire le livre des Juges, par exemple. Ou alors vous avez eu la captivité en Assyrie, donc de tout l'Israël du Nord, et puis la captivité à Babylone pendant 70 ans, et puis à cette époque-là, ils étaient occupés par les Romains, et ils étaient bien obligés de se soumettre aux Romains, donc au moment où Jésus s'entretient avec eux, voilà. Donc déjà, ils étaient en illusion de ce point de vue-là. Mais l'esclavage dont parle Jésus, il va plus loin que ça. C'est l'esclavage du cœur et de l'âme. C'est l'esclavage, ce sont les chaînes des passions, des mauvaises habitudes, des mauvais traits de caractère dont on ne peut pas se débarrasser. Et ça, il ne voulait pas l'admettre. Et ça, il ne voulait pas le reconnaître. Et il est bien vrai qu'il n'y a pas de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Et pour tous les hommes sans Dieu, qui n'ont pas reçu Jésus dans leur vie, il en est ainsi. Ils sont esclaves. Et si on leur dit, ils ne voudront pas l'accepter. La plupart du temps, non, ils prétendront être libres. Mais en réalité, ils sont liés par le péché qu'ils ont commis et ils ne peuvent pas se sortir de leur ornière. Par leur propre force, ils ne peuvent pas y parvenir. Il n'y a qu'un seul qui est capable de les sortir et celui-là, c'est Jésus. C'est ce que l'apôtre Paul lui-même proclamait, reconnaissait dans l'épître aux Romains au chapitre 6, au verset 16 par exemple, lorsqu'il dit « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice ?» Mais grâces soient rendues à Dieu, de ce qu'après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Amen. Voilà, on a le choix. Ou bien on est esclave du péché, ou bien on est esclave de la justice. Hein? Voilà, donc, et aujourd'hui encore, bien l'homme, par nature, est esclave du péché. Tous ceux qui n'ont pas reçu Christ dans leur cœur sont dans cette situation, et c'est un esclavage qui conduit à la mort, c'est-à-dire pas à la mort physique, spécialement, mais à la mort spirituelle, à la perdition éternelle. Mais lorsqu'on vient à Jésus, alors les chaînes de cet esclavage tombent, alors on est libéré et on peut suivre le Seigneur sur le chemin de la vie éternelle. Amen. Amen. Si je prends un autre passage de l'homme sans Dieu et sans Christ, c'est dans Jean chapitre 10, au verset 1er, où je lis « en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. » Voilà. C'est quoi la bergerie ? Alors, la bergerie, eh bien, la bergerie, c'est le royaume de Dieu. La bergerie, c'est l'œuvre de Dieu. La bergerie, par extension, eh bien, c'est l'assemblée du Seigneur. C'est l'assemblée de tous ceux qui ont à cœur de marcher vers le ciel en Jésus-Christ. Et la porte, c'est qui ? Évidemment, c'est Jésus. Hein, nous sommes bien d'accord, puisqu'au verset 7, nous voyons bien que Jésus leur dit encore « en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. » Voilà. Il y a un seul moyen pour faire légitimement partie du peuple de Dieu, c'est-à-dire c'est d'entrer par la porte, c'est de passer par Jésus-Christ. C'est Jésus lui-même qui le répète au verset 9. Il dit « Je suis la porte, pas une des portes, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. » Et c'est celui qui vient vraiment à Jésus, celui qui se tourne vraiment vers Jésus un jour, d'une manière précise, hein, de la même façon que quand vous passez une porte, vous êtes conscient de passer cette porte. Lorsque vous êtes entré dans cette salle, vous avez passé une porte, vous avez bien réalisé cela. Mais de la même façon, celui qui vient consciemment à Jésus, qui se tourne vers lui, eh bien, il reçoit le salut de Dieu. Mais voilà, ça c'est pour ceux qui le reçoivent. Mais Jésus parle là dans notre texte de référence d'une autre catégorie d'hommes. Ce sont ceux qui ne passent pas par la porte. C'est-à-dire ils veulent être sauvés, mais ils ne veulent pas passer par Jésus-Christ. Ils veulent aller au ciel, mais en suivant leur propre idée, leur propre religion, et non pas suivant la parole de Dieu. Et vous avez ainsi ceux qui s'appuient sur leurs bonnes œuvres, ceux qui s'appuient sur l'adoration de je ne sais pas quels intermédiaires qu'ils prétendent voir entre Dieu et les hommes, hein, des tant de religions qui font ça. Vous avez ceux qui disent, mais vous savez, Dieu est trop bon pour envoyer les hommes dans l'enfer éternel, hein, et ainsi ils ne prêtent aucune attention, aucune valeur, ni à la sainteté de Dieu, ni à sa justice. Hein, donc ils s'imaginent que puisqu'eux sont relativistes, Dieu l'est aussi. Quelle erreur, quelle faute, hein ? Et puis vous avez ceux qui s'appuient sur leur religion en pensant entrer au ciel par elle. Mais pourquoi est-ce qu'ils agissent ainsi ? Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas venir à Jésus pour avoir la vie ? C'est pourtant pas compliqué. Un enfant peut le faire. C'est pas compliqué du tout. Hein ? Pour ceux qui ne veulent pas passer par cette porte, vous savez pourquoi ? Bien parce que cette porte, elle est étroite et que cette porte, elle est basse. Hein ? Puisque dans Matthieu 7, au verset 13, Jésus dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. » Il y en a beaucoup qui entrent par là, hélas. « Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Voilà, ça veut dire qu'il faut chercher aussi. Il faut être de ceux qui cherchent. Hein. Pour passer cette porte, eh bien, il faut s'humilier, mes amis. Et c'est ça le problème. Vous savez, le frère Canel qui disait, vous avez bien des gens, ils préfèrent être fusillés qu'être humiliés. Hein? Et c'est une réalité. L'orgueil de l'homme, c'est quelque chose. Hein? Il faut reconnaître sa petitesse, il faut reconnaître son péché, il faut reconnaître ses insuffisances, il faut reconnaître son esclavage du péché, il faut reconnaître son incapacité, il faut reconnaître qu'il n'y a que Jésus qui peut nous tirer de là et qu'on ne peut pas se sauver par ses propres moyens. Mais celui qui vient à Jésus, dans cette disposition, cette bonne disposition-là, eh bien celui-là, il peut entrer par la porte. Et il entrera par la porte. Et il va recevoir ainsi la vie de Dieu. Et le Seigneur va le conduire dans ses verts pâturages, comme il est dit, près des eaux paisibles, jour par jour, et sans jamais manquer. Amen. Amen. Et j'avance encore et je vois un autre texte encore, dans Jean chapitre 13 au verset 38, qui nous parle aussi de l'homme sans Christ. Et il nous est dit là, Jésus répondit, « Tu donneras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié trois fois. » Là, c'est donc Jésus qui s'adresse à Pierre, au disciple Pierre. Et donc, et par ce passage, Jésus a montré un quatrième caractère de l'homme sans Dieu. C'est que même avec les meilleures intentions du monde, il ne peut pas faire la volonté de Dieu. Il ne peut pas vraiment servir Dieu d'une façon qui lui soit agréable. Il ne peut pas accomplir des œuvres qui soient bonnes, suffisamment bonnes aux yeux de Dieu en elles-mêmes. Et si quelqu'un, vous savez, avait de bonnes intentions vers Jésus à ce moment-là, c'était bien le disciple Pierre. Il avait fait de vrais sacrifices pour suivre Jésus. Et il pensait même donner sa vie pour lui. C'était sincèrement qu'il le disait. Hein. Il pensait en être capable. Mais Jésus, au travers de ce passage, lui annonce déjà son incapacité. Il lui annonce, non. Hein. Ce qu'il lui prophétise là, eh bien, ça va s'accomplir à la lettre dans les heures qui vont suivre. C'est-à-dire qu'il va trahir Jésus, il va le renier. Hein. Donc, on le voit trois fois. Et si cela était vrai pour l'apôtre Pierre, qui a dû ainsi perdre ses illusions, qui était donc un de ceux que Jésus avait choisi à ce moment-là, à combien plus forte raison en est-il ainsi pour nous? Même avec les meilleures intentions, par nos propres forces simplement, nous ne pouvons pas servir Dieu. Même avec les meilleurs désirs, nous ne pouvons pas faire sa volonté. Il faut qu'il y ait dans notre vie une transformation par la puissance de Dieu. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la conversion. Jésus va dire à Pierre, dans ces mêmes moments, dans l'évangile de Luc au chapitre 22, au verset 32, « Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Quand tu seras converti, affermis tes frères. Ça veut dire qu'il n'était pas encore, hein, malgré qu'il avait suivi Jésus. Malgré qu'il avait été là parmi ceux qui avaient été envoyés, qui avaient lancé l'évangile même, malgré qu'il avait été un moyen pour faire des miracles, malgré qu'il avait été moyen pour chasser des démons, il n'était pas encore converti. Et oui, c'était cette réalité-là. Hein. Donc, il a fallu une transformation en Pierre. Cette transformation, elle s'est opérée, oui, elle s'est opérée, parce que Pierre est passé par la réalité de l'œuvre de la croix qui s'est faite dans sa vie, et c'est lorsque Pierre a été transformé, changé, c'est à ce moment-là qu'il a pu être vraiment un instrument fidèle et puissant entre les mains de Dieu. Amen. Et puis il a fallu donc que ce... Auparavant, Pierre, c'est quelqu'un qui décidait ce qu'il ferait. Ah, il pouvait être plein de bonnes intentions, mais il pouvait être comme un éléphant dans un magasin de porcelaine dans l'œuvre de Dieu, vous savez. Donc c'était vraiment ça, hein, on le voyait. Donc, mais à partir du moment où il s'est converti, à partir de ce moment-là, c'est Jésus qui est devenu le maître de sa vie, et c'est Pierre qui lui a été soumis en toutes choses. Et c'est ce qu'on voit dans Jean chapitre 21, verset 18, lorsque Jésus va lui s'adresser à lui, sans qu'il conteste maintenant. Et il va lui dire à Pierre, « en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même, tu allais où tu voulais, tu faisais ce que tu voulais, hein, voilà. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. » Et c'est à partir du moment où Pierre a accepté de soumettre pleinement sa volonté à Dieu, en lui faisant pleinement confiance, c'est à ce moment-là qu'il a pu être utile au Seigneur et qu'il a pu faire la volonté de Dieu. Et ça a été, par exemple la Pentecôte, hein, où il a été un instrument choisi de Dieu pour accomplir une grande œuvre, et puis d'autres œuvres encore par la suite. Et il en est de même aujourd'hui encore pour ceux qui viennent à lui et font sa volonté en se soumettant entièrement à lui. Amen. Et puis maintenant, nous voulons, dans notre deuxième grand point, considérer ces passages où Jésus nous parle du chemin du salut. Donc là aussi, c'est des en vérité que vous trouvez dans l'évangile de Jean. Chapitre 3, verset 3, voilà. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors le royaume de Dieu, eh bien, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire... Si je fais un raccourci, ça veut dire être réellement sauvé, voir le salut et la gloire de Dieu dans cette vie terrestre et pour l'éternité. Et je dirais que par ces paroles, D'un seul coup, Jésus balaye tous les arguments que Nicodème, son interlocuteur, avait dans son cœur. Nicodème, il était venu. Voilà, c'était quelqu'un de bien, Nicodème. Humainement, c'était vraiment quelqu'un de bien. C'est une personne de valeur, je dirais. Humainement, c'était, oui, c'était vraiment quelqu'un. Et puis, il pensait quoi, lui ? Ben, il pensait que pour être sauvé, ben, il fallait améliorer sa vie, bien sûr. Il fallait obéir de mieux en mieux aux règles de la loi. Il fallait devenir de plus en plus juste. Et puis, il avait discerné qu'en Jésus, il y avait quelque chose qu'il n'avait pas saisi, qu'il n'avait pas encore réalisé. Donc, c'était pour s'améliorer encore, quelque part, qu'il venait à Jésus. C'était une des grandes raisons. Mais d'un seul argument, Jésus balaye tout ça. Hein, parce qu'il lui explique, voilà, en quelque sorte, vous savez, tu sais, c'est pas de vieilles outres rafistolées que Dieu veut pour mettre le vin de la vie nouvelle dedans. Hein, mais il veut des outres neuves. Ce n'est pas une vieille cabane rafistolée où il veut faire habiter sa gloire, mais dans une construction nouvelle. Nicodème, si tu veux être sauvé et voir la gloire de Dieu, il faut qu'il y ait en toi une nouvelle naissance. Il faut que tu naisses de nouveau. Il faut qu'il y ait en toi une vie nouvelle qui vient d'en haut. Mais alors, mais comment cela ? Comment cela ? Et alors, vous avez au verset 5 un autre « en vérité ». Jésus répondit « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Qu'est-ce que ça veut dire, naître d'eau et d'esprit ? Alors l'eau, à ce moment-là, hein, c'était les moments aussi où Jean-Baptiste baptisait du baptême de repentance. Voilà. Et tous ceux qui voulaient venir à Dieu, eh bien, venaient vers lui pour être baptisés, et ils confessaient leurs péchés, et leurs péchés à Dieu en particulier, ils se faisaient baptiser. Mais les pharisiens, dont Nicodème faisait partie, mais ils n'avaient pas accepté ce baptême. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, ils ne voulaient pas se repentir, ils ne voulaient pas s'humilier, ils ne voulaient pas admettre qu'ils avaient besoin de changer. Et c'est pour ça que Jésus lui dit, pour naître de nouveau, il faut passer par cette repentance et cette baptême qui en est le signe. Ta part, Nicodème, eh bien c'est ça. Dans le baptême et dans la repentance. Et la part de Dieu, évidemment, c'est de pardonner les péchés dont on se repent et de faire l'œuvre dans sa vie pour qu'il naisse de nouveau. Et c'est pour ça que vous avez bien des passages, je vous en cite simplement trois là, dans le Nouveau comme dans l'Ancien Testament. Acte 2, verset 38, Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez » le don du Saint-Esprit, alléluia. Dans Psaume 51, verset 4 et verset 9, « Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » Alléluia. Ézéchiel 36, verset 25, la promesse de Dieu au travers de la bouche du prophète. « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » Amen. Et quand on passe par cet engagement, donc par ce baptême, quand on s'est repenti, alors Dieu envoie son esprit en nous. Et par cet esprit, il fait toutes choses nouvelles. Alléluia. Et l'expérience du baptême du Saint-Esprit suit aussi cela. Dans Jean chapitre 5, verset 24, le Seigneur Jésus ajoute « en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Celui qui écoute, attention, pas seulement entendre. Ce soir, je pense que vous m'entendez, mais est-ce que vous m'écoutez ? Ah, la différence est là. C'est un grand point, ça. Pas seulement avoir une vague croyance, mais avoir une foi véritable et vivante. Une confiance et une obéissance totale à Jésus comme Seigneur. C'est ça, croire. Hein ? Donc, et la conséquence de ça, eh bien la conséquence, c'est qu'on entre dans la vie éternelle déjà maintenant. Il a la vie éternelle, dit Jésus. Hein ? Il ne vient pas en jugement, il est passé de la mort à la vie. Amen, amen. Et si je poursuis encore, je prends mon texte suivant dans Jean chapitre 6 au verset 53 pour parler aussi encore de cette grande œuvre de l'homme qui vient au salut. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Et ça aussi, c'est un passage extraordinaire qui nous montre ce qu'est la foi dont on a parlé dans le verset précédent. Ça ne veut pas dire que nous devons être des cannibales. Hein, c'est comme certains se sont offusqués lorsque Jésus a prononcé ces paroles. Ce passage ne nous dit pas que le pain que nous mangeons et que le vin que nous buvons se transforment littéralement en corps et en sang de Jésus. D'ailleurs, Jésus dit au verset 63, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, voyons. Hein, » voilà. Mais par là, Jésus montre qu'il veut être pour nous plus qu'une religion, plus qu'une connaissance lointaine, plus qu'un membre de notre famille, plus même que la personne qui nous est la plus proche. Il veut être en nous. Il veut être en nous parce qu'il est la vie. Et c'est seulement parce qu'il est en nous que nous pouvons avoir la vie. C'est parce qu'il est en nous que la vie est en nous. Et c'est alors, comme on le dit à la fin du verset, qu'on a la vie en soi-même. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Enfin, le quatrième passage que nous pouvons lire là aussi sur cette question de la nouvelle naissance et du salut dans lequel on entre en Jésus-Christ. Jean chapitre 13 au verset 20. « en vérité, je vous le dis. » Celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Donc, comment recevoir Dieu et Jésus ? Eh bien, il explique là, en recevant celui qui est envoyé par Christ. Celui qui est envoyé par Christ, donc ce passage nous enseigne cela. Et comment savoir si quelqu'un est envoyé par Christ ? Eh bien, c'est pas compliqué, c'est par la parole qu'il annonce qu'elle soit en conformité avec cette écriture dont Jésus a pris tant de soin de dire que tant que les cieux et la terre subsisteraient, il ne passerait pas un seul iota ni un seul trait de lettre de cette parole-là. Déjà ça. Hein. Donc, et puis aussi, comment ? Par les prodiges, par les miracles, par les exaucements qui vont confirmer cette parole quand elle est reçue dans le cœur. Et puis bien sûr, savoir s'il est envoyé, ça se manifeste aussi par sa soumission à la parole de Dieu. Et comment est-ce qu'on le reçoit, ce messager ? Eh bien, on le reçoit en écoutant, en acceptant le message et en se soumettant à son tour à cette parole de Dieu. C'est ça le grand point. C'est ça la grande nécessité. Alors le Seigneur vient, et alors sa bénédiction vient aussi. En tout temps, il en était ainsi. Rappelez-vous comment la Tsunamite faisait confiance à Élisée, l'envoyé de Dieu, et comment Dieu l'a soutenue et accompagnée, parce qu'elle a écouté sa parole et le message que Dieu lui confiait. Prenez l'exemple, je ne sais pas, de Lydie aussi, la marchande de pourpre, et de l'apôtre Paul, je pourrais citer tant et tant d'exemples, hein. Et là aussi, voyez comment, parce qu'elle a accepté ce message qui a touché son cœur, sa conscience, elle a accepté la parole de Dieu, les bénédictions qui en peut suivre. Souvenez-vous de Corneille, le centenier, hein, lui aussi, quand il s'est trouvé en présence de l'apôtre Pierre, donc, qui lui a parlé de la part de Dieu. Et là aussi, nous voyons toutes ces personnes qui ont été bénies. Pourquoi ? Parce qu'elles ont accueilli les envoyés de Dieu et qu'elles ont surtout écouté la parole de Dieu et se sont engagées dans le chemin de l'obéissance. Amen. Amen. Alors, en conclusion, eh bien, rappelons ces vérités de Jésus sur l'homme sans Dieu. L'homme sans Dieu, eh bien, malheureusement, il ne cherche pas les choses de Dieu avant tout. Éventuellement, il cherche à profiter de la situation, il cherche à profiter éventuellement de l'Évangile, profiter de Jésus, mais tant qu'il en est là, ça montre qu'il est encore sans Dieu, même s'il a vu déjà des miracles dans sa vie. Ensuite, l'homme sans Dieu, il est malgré tout esclave du péché. Quoi qu'il dise, qu'il puisse penser par ailleurs, c'est quand même son état réel. Et c'est pour ça qu'il a besoin du salut. Et puis l'homme sans Dieu, ben, il n'entre pas par la porte. Il ne vient pas tout simplement à Jésus-Christ, comme un enfant manifeste sa confiance. Mais il va faire toutes sortes de... il va tout faire pour se sauver par un autre moyen que Christ. Hein. Et puis l'homme sans Dieu, rappelons-le, est rempli d'illusions sur lui-même. Pour servir Dieu, malgré tout ce qu'il prétend, ce qu'il imagine, il ne peut pas le faire tant qu'il est dans cet état. Et c'est pour ça que le chemin du changement, le chemin du salut, eh bien, c'est cette nouvelle naissance. C'est le fait de naître d'eau et d'esprit. C'est le fait d'écouter et de croire la parole de Dieu, la parole de Christ, l'Écriture sainte. C'est le fait de manger sa chair et de boire son sang. C'est-à-dire de chercher une communion profonde et que Jésus puisse être en nous et véritablement en nous et que de cette manière aussi, eh bien, sa vie puisse être en nous. Et puis c'est aussi, bien sûr, de recevoir ainsi les messagers de Dieu, les envoyés de Dieu, ceux qui propagent avec fidélité cette parole du Seigneur. Amen. Amen. Te remercions, Seigneur, parce qu'encore aujourd'hui, tu es celui qui nous rappelle combien il est précieux, nécessaire, indispensable, vital, d'entrer dans le chemin étroit qui mène à la vie. Et merci Seigneur, béni soit ton nom. Béni sois-tu Seigneur parce que tu nous donnes ce privilège, cette possibilité. C'est vrai que tous, tant que nous sommes, bien, nous marchions, on peut marcher peut-être jusqu'à présent, dans ce chemin large, cette voie large qui mène à la perdition, où beaucoup se trouvent encore, hélas. Mais Seigneur, tu nous mets en présence par ta parole, tu nous mets en présence par le témoignage, tu nous mets en présence par les différentes occasions que nous avons de parler de toi. Eh bien, tu nous mets en présence du bon chemin, Seigneur, du chemin de la vie. Et merci parce que tu es encore celui qui veut accomplir ton œuvre, celui qui veut encore agir pour ceux qui se confient en toi et leur faire vraiment réaliser cette expérience, cette puissante expérience de salut et de vie éternelle. Merci, Seigneur, parce que tu veux faire une œuvre de délivrance dans les cœurs et dans les vies par ta puissance, Seigneur. En mettant la vie nouvelle en nous, Seigneur, tu nous donnes aussi la force d'avoir la victoire sur le péché, sur toute misère qui peut se trouver encore dans nos vies. Merci, Seigneur, parce que par cette vie impérissable qui est en nous, eh bien, tu nous donnes la victoire sur la mort. Sois loué, sois glorifié. Et c'est de cette manière aussi que tu mets l'assurance du salut dans notre cœur. L'assurance du salut pour cette vie, l'assurance de la vie éternelle pour l'éternité avec toi. Merci notre Sauveur et notre Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Pendant que nous restons dans la prière, y a-t-il quelqu'un